Europe 1 Soir,
19h-20h,
Hélène Zélani.
19h35 sur Europe 1. Il y a 6 mois, l'attaque terroriste du Hamas sur Israël entraînait l'entrée en guerre de l'armée israélienne dans Gaza. Où en est-on aujourd'hui? Le Hamas dit étudier une proposition de trêve avec libération d'otages. On en parle avec vous, Frédéric Ancel. Vous êtes spécialiste en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris. Merci d'être l'invité d'Europe 1, d'autant que vous vous apprêtez à monter dans un train. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors d'abord, êtes-vous confiant sur la possibilité d'arriver à une trêve?
Alors, sur la possibilité, oui, et à condition qu'on parle bien d'une trêve, c'est-à-dire d'une pause. Autrement dit, qu'on reste dans la dimension humanitaire, un peu comme en novembre 2023 finalement. Alors pourquoi j'insiste sur ces termes? Parce que il ne s'agit absolument pas pour l'instant d'un cessez-le-feu au sens le plus militaire, au sens le plus juridique du terme, c'est-à-dire la fin des hostilités. Ça pour l'instant c'est pas possible. Il est bien évident que les Israéliens ne l'accepteront pas, et en tout cas pas tant que l'intégralité des otages aura été libérée. Et vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que le Hamas, évidemment, lui base absolument toute négociation sur les otages.
Oui, le Hamas dit qu'il veut un cessez-le-feu définitif, le retrait israélien de l'ensemble du territoire palestinien et une augmentation des aides. Justement, est-ce que le Hamas a intérêt à cet accord de trêve?
Eh ben, quelque part, non. Parce que si la trêve est effective, ça signifie que, et si on va jusqu'au bout de l'esprit et de la lettre de la trêve, ça signifie qu'il relâche tous les otages. Or, s'il relâche tous les otages, y compris d'ailleurs le corps de ceux qu'il aura assassinés, et par définition, il n'aura plus cette épée de Damoclès sur le gouvernement israélien et sur la société israélienne. Et donc là, il craint un retour de massue militaire très dur de la part de la part d'Israël.
Oui, il n'y a plus de moyens de pression s'il n'y a plus d'otages. Et même question concernant Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, parce qu'il y en a certains, y compris en Israël, qui disent que lui aussi a intérêt à ce que le conflit continue pour se maintenir au pouvoir.
Oui, c'est l'une des accusations très à la fois très graves d'ailleurs et de plus en plus importantes, hein, de plus en plus massives dans la population israélienne. Ça dépasse largement la gauche, hein, qui pèse pas grand-chose en Israël. C'est en tout cas un soupçon très fort qui pèse sur lui. Le problème est le suivant. À quel moment il considérera, lui, son gouvernement, mais également l'état-major, hein, qui a été humilié le 7 octobre 2023 et qui doit absolument récupérer une crédibilité dissuasive, hein, pour l'ensemble de la région. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qui se passe au nord, hein, avec où le Hezbollah et les forces miliciennes pro-iraniennes prennent des coups extrêmement durs ces dernières semaines. Donc le gouvernement, l'état-major et la population doivent pouvoir obtenir des gages de victoire. Et vous savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mais il n'y a pas de victoire, il n'y a que des preuves de victoire. Et aujourd'hui, je pense que deux sont déjà atteints, deux critères de but de guerre sont déjà atteints, on n'en parle pas suffisamment. Et j'insiste là-dessus depuis pratiquement 6 mois. L'abolition de la capacité balistique du Hamas. Aujourd'hui, le Hamas est quasiment incapable d'envoyer des salves de roquettes. Il y en a encore eu 4 il y a 3 jours, mais enfin, sur ces dernières semaines, il n'y en a plus, pratiquement plus. Et deux, c'est l'abolition de sa capacité à renvoyer des terroristes sur le territoire israélien. Et ça, aujourd'hui, physiquement, c'est strictement impossible.
Alors, peut-être que, comme vous le dites, le Hamas a perdu sur ce plan-là, mais est-ce que finalement, le Hamas n'a pas gagné la guerre de la communication? Parce que il y a ce ministère de la Santé du Hamas qui, tous les jours, annonce un bilan plus lourd. Aujourd'hui, plus de 33 000 morts. Et finalement, et ce bilan, il est repris par tous les médias, il faut le dire, hein. Est-ce que, selon vous, il est fiable? Et pourquoi est-ce qu'on n'entend pas de bilan côté israélien?
Alors d'abord, le bilan n'a aucune espèce de valeur dans la mesure où c'est précisément le Hamas qui le donne. Je rappelle que c'est un mouvement totalitaire, un mouvement de nature très ouvertement terroriste, volontiers négationniste, et par ailleurs, ce fameux ministère de la Santé, il en sait strictement rien du tout. J'ajoute un point très important sur la population, enfin sur les Palestiniens tués au cours de cette guerre, et malheureusement, dans tous les cas de figure, effectivement, il y en a beaucoup. Il faut quand même considérer qu'il y avait beaucoup de combattants armés. Et là, on peut pas les considérer comme des civils. Donc je pense que ce bilan donné quotidiennement, il n'a aucune espèce de valeur. Maintenant, du côté israélien, j'ai presque envie de vous dire que techniquement, on peut pas savoir. On peut pas savoir mieux, en quelque sorte, hein, le bilan des pertes, pour des raisons assez évidentes, parce que vous avez des gens que vous retrouvez, vous avez des gens dont vous retrouvez les corps sous les décombres. Il y en a beaucoup qui ne sont pas fouillés, beaucoup de décombres qui ne sont pas encore fouillés. Donc c'est un bilan précis, en fait, fondamentalement, il est impossible à faire. Maintenant, quand vous parlez de la guerre de la communication, vous avez raison de dire que, en tout cas de subodorer que le Hamas la joue assez finement en termes de communication. Mmh. Mais moi, vieux géopolitologue blanchi sous le harnais, je peux vous dire que c'est pas ça qui fait la guerre. Et c'est pas ça qui fera la victoire. Et à la fin des fins, depuis au moins un demi-siècle, on sait que les puissances conventionnelles, et les États en particulier, en général, dans les conflits, perdent la guerre, ou en tout cas le conflit de communication, face aux rébellions ou aux groupes terroristes, hein, aux groupes infra-étatiques. Mais ça ne signifie pas qu'ils perdent de manière générale à la fin.
Oui, parce que vous dites ça, et en même temps, alors c'est peut-être, vous allez me dire, la déformation des réseaux sociaux, mais il y a énormément d'attaques contre Israël, traité de génocidaire, d'état d'apartheid, qui est un tueur d'enfants. Et c'est pour ça que je parle de communication réussie côté Hamas, parce que ça donne cette image à la population que les Israéliens sont des tueurs, finalement.
Alors oui et non. Je veux dire qu'il y a toujours une nuance très importante. D'abord, l'opinion publique, elle fluctue. Quantitativement, il est très difficile de savoir ce que des gens pensent du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre. Prenez par exemple le cas de la France, qui est très intéressant. Après 6 mois de guerre et 10 matchs de bombardements israéliens, une petite majorité de la population reste favorable à Israël. C'est quand même très intéressant.
Oui, je voulais d'ailleurs vous en parler. Je donne juste, c'est le baromètre IFOP pour le CRIF. 56% des Français continuent de trouver justifié l'objectif d'éliminer le Hamas à Gaza.
C'est ça. Alors après, sur les modalités, on peut toujours discuter, mais vous voyez, c'est intéressant, parce que c'est pas si évident que ça. Et vous avez raison de parler des réseaux sociaux, qui constituent un prisme très déformant en réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce ne sont pas les opinions publiques qui disposent de chasseurs-bombardiers, qui disposent de produits intérieurs bruts, qui disposent à la fin des fins d'une diplomatie souveraine. Moi, je crois beaucoup dans ce qui est en train de se produire d'ailleurs, y compris dans le monde arabe, c'est-à-dire fondamentalement, sur le plan rhétorique, discursif, sémantique, oui, des condamnations d'Israël. D'ailleurs, ça peut parfaitement se comprendre, se légitimer. Mais sur le terrain, lorsque vous regardez les accords diplomatiques signés entre 6 États arabes depuis 78 et Israël, aucun n'a été remis en cause. Aucun, absolument aucun, et notamment pas les accords d'Abraham. Si vous regardez le volume et la valeur des échanges économiques et commerciaux, et même technologiques parfois, entre toute une série de pays dont la diplomatie est très dure ces derniers mois avec Israël, et l'État juif, bah vous constatez quoi ? Que ce commerce n'a pas évolué. Vous voyez ? Donc je serais très prudent sur cette... sur l'efficacité de la bataille de la communication.
Mais il y a quand même aussi le côté américain, parce qu'on sait que sans les armes américaines, Israël ne peut pas continuer cette guerre. Et Joe Biden est de plus en plus critique vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, et notamment sur une éventuelle offensive à Rafah. Les États-Unis ont bien dit qu'ils étaient totalement opposés à une invasion militaire de cette ville qui est frontalière avec l'Égypte.
Alors, vous avez tout à fait raison. À ceci près, d'abord, que une grande partie des États au monde, de toute façon, ne pourraient pas faire la guerre sans les armes américaines ou des armes d'autres alliés, d'ailleurs.
Oui, c'est le cas de l'Ukraine aussi, hein, bien sûr.
carrément. absolument. Et d'une grande partie des pays de l'OTAN, sinon de tous les pays de l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à un gouvernement israélien, et notamment un Premier ministre, qui effectivement, aujourd'hui, ne bénéficie plus d'aucune crédibilité diplomatique dans les chancelleries. C'est à peu près certain sur toutes les chancelleries au monde, hein, peut-être 2-3 exceptions mélanésiennes, pacifiques. Donc ça, c'est un point important. Et puis le deuxième, c'est que Biden s'énerve, oui, mais toujours dans le domaine de l'humanitaire. Jamais Joe Biden n'a imposé depuis 6 mois à Israël un cessez-le-feu définitif. Vous savez, celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire au sens fort, plein, militaire, juridique du terme. Il insiste, et d'ailleurs il n'a pas tort, pour que la dimension humanitaire soit respectée, soit mieux gérée, ce qui est substantiellement différent.
Je voulais aussi qu'on dise un mot des otages. Vraisemblablement, si on en croit les responsables israéliens, il en resterait 95 vivants, dont peut-être, hein, en théorie, 3 Français, Ofer Calderon, 53 ans, Ouad Yahalomi, 49 ans, Orion Hernandez Radou, 30 ans. C'est important aussi de rappeler leurs noms, 3 otages français. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance de les revoir, ces otages ?
Oui. Alors, écoutez, évidemment, c'est une question extrêmement difficile, mais une chance raisonnable, oui, pour une raison fondamentalement simple et prosaïque, c'est que vivant, pardon de m'exprimer de manière très forte comme ça, ils valent quelque chose, et ils valent plus que mort, hein, je le dis froidement en géopolitologue, hein, vous me posez la question. Et donc, le Hamas est composé et dirigé par des fanatiques au dernier degré, on l'a bien vu le 7 octobre, et d'ailleurs on n'a pas attendu le 7 octobre pour le savoir, puisqu'au cours des accords d'Oslo, le Hamas a tout fait pour déjà massacrer des civils et casser ces accords. Mais ce ne sont pas tous des imbéciles. Et donc, un certain nombre de dirigeants du Hamas savent très bien que de manière pragmatique, il faut que cette épée de Damoclès, en quelque sorte, cette monnaie d'échange, appelons-la comme ça, serve, et leur serve à des choses très substantielles. Donc je suis modérément optimiste.
Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Je rappelle votre dernier livre, Petite leçon de diplomatie, ruse et stratagème des grandes ce monde à l'usage de tous, c'est aux éditions Autrement, et merci d'autant plus qu'on l'a entendu, vous étiez sur un quai de gare et qu'on vous a peut-être un peu retardé.
Merci à vous.